Ce soir, nous sommes entre nous et nous espérons que le Seigneur est aussi parmi nous. C'est la chose la plus importante. Si nous étions ici et pas lui, nous pourrions tous rentrer chez nous. Si nous n'apportons pas cette certitude qu'il est présent, que nous soyons nombreux ou non, il dit, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Et la promesse qu'il a faite, il l'accomplit. Et nous sommes ici, en son nom, dans la crainte devant sa parole. Nous l'avons souvent dit, tous ceux qui honorent Dieu, pas seulement avec les lèvres, mais avec le cœur, croient sa parole. Dieu ne peut être séparé de sa parole. Lui et sa parole ne font qu'un. Et si nous voulons ne faire qu'un avec Dieu, nous devons être en accord avec sa parole. Et à partir du moment où nous sommes en accord avec sa parole, il prend la responsabilité pour nous, la responsabilité de nous. Et comme nous l'avons entendu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, verset 39. Nous savons que la parole de Dieu est appliquée de manière très différente. Le diable a été le premier à s'en occuper et il le fera peut-être jusqu'à la fin. Même lorsque notre Seigneur était sur terre, il a mis dans sa bouche le passage biblique qui vient d'être lu et a rencontré le Seigneur avec cette parole. Nous pouvons tous le lire. Ici, dans le psaume 91, le psaume 91, nous, comme nous l'avons tous entendu, il est écrit au verset 11, psaume 91, verset 11, 91, verset 11, « Car il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Verset 12, « Ils te porteront sur leurs bras, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Si nous lisons cela dans Matthieu, au 4e chapitre, au 6e verset, c'est l'histoire de la tentation de notre Seigneur. Et l'ennemi dit même du verset 6, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici en bas. Car il est écrit, il enverra ses anges pour toi et ils te porteront sur leurs bras de peur que ton pied ne heurte une pierre. L'ennemi, l'adversaire, a porté la parole de Dieu à la bouche. La même chose est arrivée à tous les scribes, à tous les pharisiens, à tous. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu, ni la puissance de Dieu, et ils ne faisaient pas partie du plan de Dieu en leur temps. Il était écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains. Mais il n'était écrit nulle part, précipite-toi en bas, jette-toi en bas. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est ce que veut l'ennemi. Précipiter en bas. C'est le projet de l'ennemi. Jeter en bas, pousser et crier ensuite des paroles pieuses. Et peut-être même d'y ajouter un passage de la Bible, donc nous infiltrer des pensées et peut-être même y ajouter un passage de la Bible pour rendre la chose crédible aux yeux de ceux qui l'écoutent. Il faut distinguer, c'est ce que m'a dit aujourd'hui mon ami assis au fond, comment l'évêque protestant a remercié le pape dans une lettre et a également mentionné dans cette lettre la parole que frère Rousse a mentionnée ici, tirée de Romains 8, à savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il a seulement regretté que le souper n'a pas été célébré ensemble. Les gens ont perdu de vue, et ce n'est ni un jugement ni une condamnation. C'est une constatation si triste qu'on ne peut qu'en avoir le cœur brisé. Combien de personnes mettent dans leur bouche la parole de Jean 17 et disent « Le Seigneur a pourtant demandé à prier que nous soyons tous un. » Jean 17, 21, et cela peut arriver si le temps dure encore et que la venue du Seigneur se fait un peu attendre. Quand cette union sera faite, tous ceux qui n'y participeront pas seront considérés comme des ennemis de Dieu parce qu'ils n'auront aucune part à l'unité qui sera forgée. Et l'on pourra à nouveau dire, il est écrit qu'ils seront tous un. Pourquoi ne le voulez-vous pas? Pourquoi ne vous inclinez-vous pas devant Dieu? Il est écrit beaucoup de choses. Il suffit de les comprendre et de les recevoir correctement. De la parole du psaume, j'ose dire que peu de scribes ou de pharisiens auraient pu lire ce que l'ennemi a lu. Peu auraient pu comprendre en lisant ce que l'ennemi a lu. Aucun d'entre eux n'est venu, mais l'adversaire est venu et a dit, il est écrit qu'il enverra ses anges et qu'ils te garderont, ils te porteront sur leurs bras et tu ne heurteras ton pied contre aucune pierre. Bien-aimé, le temps est venu de discerner si la parole de Dieu est apportée par l'Esprit de Dieu, si elle est placée dans le bon contexte ou si l'ennemi en fait un mauvais usage. Je pense encore à mercredi soir et frère Rousse n'a aucune raison de s'excuser. J'en ai beaucoup plus en écoutant, vraiment, vraiment. Si tous les gens ont autant à gagner en écoutant que moi, alors chaque réunion en vaut la peine par-dessus tout. Mes pensées s'approfondissent dans la parole et je vois alors le programme de Dieu devant mes yeux spirituels. Je reviens aux deux passages de Jérémie au chapitre 11, puis au chapitre 12 et ensuite dans les Chroniques. Il est dit ici dans Jérémie, chapitre 11, du verset 2. Jérémie 11, verset 2. « Écoutez les paroles de cette alliance et annoncez-les aux hommes de Juda et surtout aux habitants de Jérusalem. Verset 3, « Et toi, dis-leur encore ceci, ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Maudit soit quiconque ne se conforme pas aux prescriptions de cette alliance. » Verset 4, « Que j'ai imposé à vos pères où je les ai fait sortir du pays. » Appelle à nouveau son peuple à prendre au sérieux les paroles de son alliance, à croire, à suivre ses instructions et non les commandements des hommes. Le Seigneur l'a dit dans Marc 7 qu'ils ont annulé les commandements. Marc 7, verset 8. Et il y en a en abondance aujourd'hui. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu, le programme de Dieu, le plan de salut de Dieu, les enseignements de Dieu, tout a été jeté par-dessus bord. Mais pour tout, un substitut a été apporté. Et les hommes ne font pas la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il est ensuite dit, Jérémie 11, verset 6, « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Si nous avons bien écouté, ce n'est pas le monde entier qui est visé ici, qui est interpellé ici, mais il est dit ici au verset 2, « Annoncez-les aux hommes de Juda et en particulier aux habitants de Jérusalem. » Juda était la tribu que Dieu s'était choisie, d'où devait sortir le Messie, comme le lion de la tribu de Juda. Dieu a donné sa parole et il a exigé de ceux avec qui il avait un projet qu'il croit en sa parole, qu'il suive ses instructions. Ce n'est pas aux Philistins que Dieu avait à dire quelque chose, ni aux Amoriens, ni aux Jébusiens. Il les a livrés à ceux à qui il avait quelque chose à dire. Dieu parle à ceux avec qui il a établi son alliance. Et aujourd'hui, nous le sommes par grâce. Nous pouvons nous compter parmi ceux avec qui Dieu a conclu une alliance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que fait tout le monde, ce que fait tout le monde religieux ou politique, ce n'est pas notre problème. Dieu s'adresse à nous, à son peuple de l'Alliance du Nouveau Testament. Et il nous demande d'obéir à tout ce qu'il a dit. Ici, dans Jérémie, au chapitre 12, il y a une petite dispute dans le cœur du prophète et celui-ci parle alors au Seigneur et dit ceci. Chapitre 12, verset 1. Tu as raison, Seigneur, quand je discute avec toi. Et pourtant, je voudrais te parler de tes actes de jugement. Pourquoi les actions des hommes sans Dieu réussissent-elles? Et pourquoi tous ceux qui agissent infidèlement restent-ils incontestés? Verset 2, tu les plantes toi-même, ils prennent racine, ils prospèrent et portent du fruit. Tu es proche d'eux selon leur bouche, mais loin de leur cœur. Arrêtons-nous un peu sur ces paroles. Dieu est ici évoqué comme celui qui fait prospérer l'homme sans Dieu. L'avons-nous tous lu? C'est le débat. Verset 1. Pourquoi les actions des hommes sans Dieu ont-elles du succès? Et pourquoi tous ceux qui agissent sans fidélité restent-ils incontestés? Ils se sentent tous à l'aise. Ils n'ont aucun problème. Ils sont sans souci. Qui est dans le besoin? Qui est contesté? Sur qui l'ennemi concentre-t-il toute son attention? Mais pas sur les hommes sans Dieu, car ils lui appartiennent déjà et il est le Dieu de ce monde. Mais alors, la contestation, c'est bien que Dieu les plante et que Dieu les fait réussir et que Dieu leur fait même produire du fruit. Lisons cela tranquillement. Verset 1. Pourquoi les actions des hommes sans Dieu sont-elles couronnées de succès? Pourquoi tous ceux qui agissent, verset 1, sans fidélité restent-ils incontestés? Verset 2. Tu les plantes toi-même. Ils prennent aussi racine. Eh bien, à quoi sert la plantation de l'homme sans Dieu? À quoi lui sert sa racine, même si elle est profonde? Un homme sans Dieu reste sans Dieu. Et l'enfant de Dieu reste l'enfant de Dieu. Dieu nourrit, croyez-le ou non, même les athées qui mangent le même blé. Ils sèment et récoltent comme tout le monde. Dieu est le Dieu de toute chair. Cela ne change rien. Mais c'était justement la dispute. Et si l'on lit la Bible, les non-croyants ont toujours eu de la chance. Les choses vont bien pour eux et les croyants ont souffert. Il est dit ici au verset 2, « Tu les plantes, toi-même ils prennent aussi racine. » Prennent aussi racine, ils portent du fruit, ils prospèrent et portent aussi du fruit. Tu es proche d'eux selon leur bouche, mais loin de leur cœur. Eh bien, ça c'était le verset 2. Eh bien, c'est un peu problématique ici. D'une part, ce sont des hommes sans Dieu, des impies, mais ils portent le nom du Seigneur dans leur bouche, alors que leur cœur est loin de lui. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Des hommes, des gens sans Dieu ne sont pas quelque part, mais les gens qui sont sans Dieu sont des personnes qui portent le nom de Dieu et la parole de Dieu dans leur bouche, mais qui ne sont pas prêtes à croire de tout leur cœur et à agir en conséquence, à croire avec leur cœur. Et ce faisant, ils se sont détachés de Dieu. Et celui qui se détache de Dieu est détaché de Dieu, est sans Dieu. Et celui qui est sans Dieu est un impie. Aujourd'hui encore, ces mots ont la même signification qu'autrefois. Celui qui est détaché de Dieu est sans Dieu. Et il est dit ici ensuite au verset 3, « Mais toi, Seigneur, tu me connais d'un bout à l'autre et tu as éprouvé les sentiments de mon cœur à ton égard. » N'est-ce pas merveilleux? Verset 3, « Mais toi, Seigneur, tu me connais d'un bout à l'autre et tu as éprouvé les sentiments de mon cœur et à ton égard. » Je crois que pour chaque homme qui doit passer par des épreuves, c'est son cœur, sa nature, sa vie entière qui est mise à l'épreuve. Que l'homme sans Dieu soit planté, qu'il ne soit pas contesté. Je préfère subir la contestation, l'épreuve et tout ce qui s'y rapporte, mais faire partie de ceux qui seront un jour auprès du Seigneur. Et si nous écoutons la parole qui a déjà été évoquée et brièvement traitée mercredi à propos de la dédicace du temple dans l'Ancien Testament, nous lisons dans 2 Chroniques au chapitre 5, et ce qui m'émeut beaucoup dans toute cette affaire, c'est l'exaucement de la prière et la réponse de Dieu qui a suivi la prière. Avant que tout cela puisse arriver, certaines choses devaient être mises en place, mises en ordre. Non seulement la construction devant devait être achevée, mais tout ce qui appartenait au parvis devait être mis en place, tout ce qui appartenait au sanctuaire devait être mis en place, tout ce qui appartenait au lieu très saint, la tente et la tente de révélation devait y entrer, tout devait aussi être ordonné à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Nous, à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Nous lisons ici, dans 2 Chroniques, au chapitre 5, du verset 5, et ils transportèrent l'arche. Peut-être dois-je lire le verset 4 pour des raisons de contexte. Verset 4. Lorsque tous les anciens d'Israël se furent rassemblés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, verset 5, ainsi que la tente de révélation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs lévites qui les transportèrent. Vous vous souvenez tous du sermon de frère Branham, faire un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. David a pris un nouveau char, il a attelé des bœufs et a mis l'arche sur le nouveau char. 2 Samuel 6, verset 3. Mais du point de vue de Dieu, sa place était sur l'épaule des Lévites. Et il y avait là une pensée tout à fait merveilleuse que je n'ai jamais eue. Je ne l'ai pas non plus, à ma connaissance, tirée de la Bible jusqu'à aujourd'hui. Frère Branham dit que l'arche devait être portée à chaque fois, c'est-à-dire par chacun, sur l'épaule gauche, c'est-à-dire au-dessus du cœur. Au-dessus du cœur. Oui. Elle devait être portée sur l'épaule gauche. Comme cela peut-il être fait correctement? Seuls les spécialistes le savent. Mais c'est ce qui est souligné dans le sermon ou dans un autre sermon. Elle devait être portée sur le cœur. Et maintenant, vous allez dire, oui, mais comment est-ce que cela est possible? Voici l'arche. Supposons que ce livre soit maintenant l'arche. Et que celui qui est à la droite soit bien, il se place ici et l'arche est sur son épaule gauche. Mais que doit faire l'autre s'il se trouve ici à gauche? S'il se trouve ici à gauche, il se tient donc à gauche et l'arche est à droite. Et il doit quand même porter sur son épaule gauche. Mais je suis si heureux que la Bible nous renseigne aussi à ce sujet. Il y avait en effet des anneaux à l'arche et c'est à travers ces anneaux que la barre était placée de sorte qu'elle dépassait de l'arche et c'est ainsi que les deux, l'un et l'autre, à gauche et à droite, devant et derrière, pouvaient être portés car la barre de transport dépassait de l'arche de sorte qu'elle pouvait être portée par tous au-dessus du cœur. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Dieu ne veut pas que nous la portions seulement sur l'épaule. Dieu veut que nous la portions au-dessus du cœur. La parole de Dieu doit être dans notre cœur, car c'est là qu'elle doit être. C'est sa place. Et il y a toujours des hommes qui la portent, mais aussi des hommes qui portent ce qui y est écrit, car c'était bien la parole de Dieu. Et les hommes qui reçoivent la parole de Dieu sortiront finalement vainqueurs et n'auront plus à affronter les gens qui ont fleuri et qui ont finalement été arrachés. Dieu fait tout croître. Le soleil de Dieu brille sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les méchants et les bons. Matthieu 5, 45. C'est ce que dit le sermon sur la montagne. C'est ce que notre Seigneur lui-même a dit. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 20. Et le seul fruit qui a de la valeur devant Dieu, c'est le fruit qu'il peut lui-même produire en toi et en moi. Et c'est le fruit de l'Esprit parmi ceux en qui et par qui la parole de Dieu, qui est esprit et vie, a été reçue afin que par l'Esprit, la vie divine puisse être opérée en chacun et que le fruit divin puisse en sortir. Ainsi, les Lévites ont placé l'arche avec la parole de Dieu à l'endroit où elle devait être, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Permettez-moi de continuer à lire à partir du verset 6. Le roi Salomon et toute l'assemblée du peuple d'Israël qui s'était rassemblée auprès de lui se tenait devant l'arche et offrait tant de pièces de menu bétail et de bœuf que leur nombre était presque incalculable. Verset 7. Ensuite, les sacrificateurs ont apporté l'arche avec la loi de l'alliance du Seigneur à l'endroit qui leur était destiné, c'est-à-dire dans l'arrière-salle de la maison du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes du chérubin. Vous savez que dans le lieu très saint se trouvaient les deux chérubins qui faisaient s'entrechoquer leurs ailes et qui gardaient le siège de la grâce, le trône de la grâce. Il gardait la parole, l'arche de l'alliance. Et ce qui est étrange ici aussi, c'est que les Lévites ont porté l'arche de l'alliance aussi loin qu'ils avaient le droit d'entrer. Puis, ce sont les sacrificateurs qui s'en sont chargés et l'ont placé à l'endroit désigné par Dieu. Ah, si nous et tous ceux qui veulent subsister devant Dieu pouvions respecter de tout cœur l'ordre divin, la gloire de Dieu descendrait à nouveau maintenant. C'est tout simplement ce qui manque. Tout le monde, je ne parle pas de nous ici, pardonnez-moi, car je crois que nous ne nous réunissons pas pour imposer notre obstination. Nous venons ici pour nous laisser corriger et corriger sincèrement et honnêtement par Dieu pour nous laisser reprendre. Mais il faut tout simplement que ces choses nous soient présentées. Chaque chose à sa place. Les Lévites avaient leur rôle. Les sacrificateurs avaient leur tâche. Le souverain sacrificateur avait sa tâche une fois par an. Tout était ordonné. L'arche de l'alliance, avec la loi de l'alliance, était placée dans le lieu très saint, à l'endroit qui lui était destiné, sous les ailes du chérubin. C'est là que se trouvait la présence de Dieu. Ces chérubins devaient symboliser la présence de Dieu En effet, lorsqu'Ésaïe a pu contempler la gloire, il a entendu les chérubins et les séraphins crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Ésaïe 6, 3, il est entouré de chérubins. Et ici, il devrait indiquer que la présence de Dieu est là où se trouve sa parole. Et cela a beaucoup à nous dire. Elle n'est pas seulement écrite dans la Bible, mais elle est aussi inscrite dans notre cœur. Dans notre cœur. On remarque encore qu'il y avait beaucoup d'éléments d'encadrement, mais que 120 sacrificateurs étaient également présents. C'est écrit ici au verset 12. Au verset 12 et peut-être au verset 13. 2 Chroniques 5, verset 12, et avec 125 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Maintenant, le verset 13, les trompettes et les chanteurs devaient s'unir comme un seul homme, d'une seule voix, pour louer et rendre grâce au Seigneur dès que le son des trompettes, des cymbales et des autres instruments de musique s'élevait et qu'on entonnait le cantique de louange au Seigneur, car il est bon et sa miséricorde dure éternellement. Verset 14, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas s'approcher pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Nous avons ici une image parfaite de l'Église du Nouveau Testament. Elle aussi a été remplie de la gloire de Dieu. 120 se sont rassemblés. Il n'y avait pas de souffleurs d'oreilles, ni de gens dont les oreilles étaient désirant d'écouter des choses agréables, mais des gens qui avaient du respect pour Dieu et pour ses paroles, qui croyaient à la promesse que le Seigneur avait faite. Et c'est pourquoi ils sont venus dans la salle haute. Et quand il est dit ou chanté ici, verset 13, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez que c'était dans l'Ancien Testament. Mais la bonté de Dieu serait éternelle et sa grâce de génération en génération pour tous ceux qui craignent Dieu. Psaume 103, verset 17. Dieu a toujours été miséricordieux. Dieu était déjà miséricordieux au temps d'Abraham. Dieu était miséricordieux au temps d'Enoch. Dieu était miséricordieux au temps de Moïse. Dieu a toujours été miséricordieux. Mais les hommes devait le chercher avec humilité. Et celui qui le cherchait, il le laissait le trouver. Et ce sont ceux qu'il a cherché et trouvé. Cela aussi est important. Et si nous le comparons ensuite à Romains 15, verset 6, il y est dit pour rendre grâce au Seigneur comme un seul homme, d'une seule voix. Ou afin que d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement important. Nous réunissons en effet pour prier et avons du mal à nous faire comprendre mutuellement que la prière ne nécessite pas d'auditeurs, tout comme le chant ne nécessite pas d'auditeurs. D'ailleurs, David a chanté tous ses psaumes dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, les auditeurs sont très mal placés. Chacun doit chercher et trouver son lien personnel avec Dieu. Mais nous sommes heureux de constater qu'avant même que Salomon n'ait fini de prier, la gloire de Dieu était déjà descendue lorsque l'arche d'alliance a été placée à sa place. Ce n'est pas l'homme dont il est question, dont Dieu se sert, mais ce sont les hommes qui participent à ce que Dieu fait. Ils entrent en sa présence et voient sa gloire descendre. Il est dit ici, au chapitre 6, du verset 4, puis il dit, Deux Chroniques 6, verset 4. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a maintenant accompli réellement la promesse qu'il avait faite oralement à David, mon père, en disant. Verset 5. Depuis le temps où j'ai fait sortir mon peuple, Israël, d'Égypte. Oui. J'ai du mal à lire ce soir. Poursuivons notre lecture à partir du verset 7. Or, il est vrai que mon père David, donc le verset 7, avait le désir de bâtir une maison au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 8. Mais le Seigneur fit dire à David, mon père, tu as bien fait de désirer bâtir une maison à mon nom. Verset 9. Cependant, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison, mais c'est ton fils naturel qui te naîtra, qui bâtira la maison à mon nom. Verset 10. Maintenant, le Seigneur a fait que la promesse qu'il avait faite s'accomplissent, car j'ai pris la place de mon père David et je suis monté sur le trône d'Israël comme le Seigneur l'avait promis et j'ai bâti le temple au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 11, et j'y ai placé l'arche dans laquelle se trouve l'acte de l'alliance que le Seigneur a conclu avec les Israélites. Ce qui m'intéressait surtout, c'était ce verset de l'acte d'alliance. Vous savez qu'il y a certains actes sur la terre et j'ai lu aujourd'hui dans Esdras et dans Néhémie que lorsque le peuple d'Israël est revenu, il y avait parmi eux ceux qui cherchaient leur acte de naissance et ne les trouvaient pas. Ils ont été exclus, ils n'ont pas eu de part et il a été dit attendez qu'un sacrificateur vienne pour la lumière et le droit, l'urim et le tourim, le tumim, pour consulter Dieu. Ce n'est qu'alors, quand nous aurons la réponse, que vous pourrez être admis dans l'assemblée. Mais nous aurons l'occasion d'écrire ou de parler de cette pensée. Il est dit ici l'acte d'alliance. Dieu avait conclu une alliance. Elle n'avait pas seulement été faite en parole, elle était, mais elle avait été écrite, elle avait été inscrite dans l'arche d'alliance. Dieu ne pouvait plus revenir sur ce qu'il avait dit. Et dans le Nouveau Testament aussi, Dieu ne peut jamais revenir sur ce qu'il a dit. Tout est écrit noir sur blanc. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Dieu a signé les deux testaments. Il veille à ce que tout toutes les paroles de son alliance soient accomplies pour le peuple qui a été inclus dans cette alliance de Dieu. Il est dit ici, et c'est d'ailleurs la pensée principale ici au verset 17, « Maintenant donc, ô Seigneur, Dieu d'Israël, fais que s'accomplisse la promesse que tu as faite à David ton serviteur. » Nous remarquons de quoi il s'agit. Promesse et accomplissement. Conclusion d'une alliance, législation et un peuple dans le cœur duquel la parole de Dieu devait se trouver. La prière n'est pas plus courte ou beaucoup plus longue, comme nous avons parfois tendance à le faire. La réponse est venue à la fin. Et c'est ce que nous trouvons ici dans les derniers versets du chapitre 6 et ensuite aussi dans les premiers du chapitre 7. Il est dit ici du verset 40, « Maintenant donc, mon Dieu, que tes yeux... » Donc 2 Chroniques 6, verset 40. « Maintenant donc, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière en ce lieu. » Verset 41. « Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, lève-toi vers ta demeure de repos, toi et ton arche puissante, que tes sacrificateurs, Seigneur, mon Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. » Verset 42, « Ô Seigneur, mon Dieu, ne rejette pas ton oint. Souviens-toi des grâces que tu as promises à David, ton serviteur. » Si nous regardons en ce temps d'orgueil, d'arrogance, et tout ce qui se trouve parmi le peuple, je pourrais avoir tendance à demander qui viendrait aujourd'hui si David était ici et chantait ses psaumes. Qui serait présent? Tous les pieux ne seraient pas là. Ils ne seraient pas là. Ils auraient déjà rendu leur jugement depuis longtemps. Avez-vous remarqué ce que j'ai dit? Leur jugement. Oui, leur jugement. La plupart des gens ne le savent même pas, car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu 12, 37, ce n'est pas ce qu'un autre dit de toi qui fait foi, mais ce que tu dis d'un autre, c'est ton propre jugement qui est sorti de tes propres lèvres. C'est ainsi que tu l'as jugé juste. C'est ainsi que tu l'as trouvé juste et il en sera ainsi un jour et pas autrement. Ne pensez pas que Dieu agira injustement. Dieu accordera à chacun son plein droit. Comme il l'a vu, c'est ainsi qu'il le verra. Et ici, il est dit que le Seigneur Dieu a regardé de haut en grâce. Et si les gens n'étaient pas venus, du moins pas dans cette génération, j'ose presque le dire. Si Salomon était ici aujourd'hui, personne ne serait rassemblé ici. Les gens seraient tous chez eux et les chaises seraient vides. Et ou bien il y en aurait-il encore quelques-uns ici? Vous seriez là. Très bien. C'est suffisant pour commencer avec Dieu. Mais c'est ainsi. Nous vivons à une époque terrible. Et les gens ne le remarquent pas. Ils passent à côté de la réalité. Ils s'élèvent au-dessus de Dieu et de la parole de Dieu. Quiconque se place au-dessus de la parole de Dieu se place au-dessus de Dieu. Et quiconque passe outre à Dieu. Il est dit ici d'une manière si merveilleuse, verset 40, « Maintenant donc, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière en ce lieu. » Bien-aimés, pourquoi nous réunissons-nous? Nous pouvons tous prier chez nous et nous le faisons certainement plus ou moins. Nous lisons les Saintes Écritures, nous prions, même si parfois cela ne coule pas de source comme nous le souhaiterions. Mais nous cherchons au moins à entrer en dialogue avec Dieu. Mais lorsque nous sommes ici, beaucoup de braises sont rassemblées et un peu de vent de l'esprit souffle et le feu divin s'allume. Puis, la flamme apparaît. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que je préférerais si ça brûlait déjà? Luc 12, 49. Si nous ouvrons tous la bouche, si nous ouvrons notre cœur et si nous prions, Dieu alors, il entendra et répondra. Verset 40, que tes oreilles soient attentives à la prière en ce lieu. En ce lieu. Maintenant, verset 41. Et maintenant, lève-toi, Seigneur, mon Dieu, vers ton lieu de repos, toi-même et ton arche puissante. Nous y sommes. Dieu devrait être uni à sa parole. Toi-même et ton arche puissante. Les deux sont inséparables, vont ensemble. Dieu et sa parole sont inséparables. Et ici, nous sommes inclus en tant que peuple de Dieu, et il est dit, laisse tes sacrificateurs, pas les sacrificateurs d'une communauté religieuse, mais tes sacrificateurs. Et Dieu dit, tu seras sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Hébreu 5, 6, en référence au Christ, le fils de David en esprit, et en référence à nous, qui avons été rachetés et pouvons être un peuple de rois et de sacrificateurs. Laisse tes sacrificateurs, pas les sacrificateurs orthodoxes ou ceux-là, mais tes sacrificateurs, pas les prêtres de Baal, pas les prêtres d'Ashéra, mais tes sacrificateurs, des gens que tu as placés dans ton royaume, dans ton église, qui apprécie, aime et respecte ta parole. Verset 41. Que tes sacrificateurs, Seigneur, mon Dieu, se revêtent de salut. Ils sont vêtus de salut. Dieu nous a accordé le salut par grâce. Par grâce. Et c'est une grande chose. Verset 41. Que tes sacrificateurs, Seigneur mon Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Qui sont ces gens dont Dieu fait parler ici par la bouche de Salomon? Des gens comme toi et moi étaient présents à l'époque lorsque Dieu le Seigneur a accompli sa promesse et fait construire le temple, qu'il a tout fait placer à l'endroit prévu et qu'ensuite cette union a eu lieu. Voici la parole de Dieu dans l'arche d'alliance et Dieu le Seigneur qui est avec sa parole et avec son peuple est descendu dans la nuée de gloire de sorte que tous l'ont vu. Et vous savez, si nous lisions plus loin comme ils sont alors tombés sur leur visage et se sont agenouillés pour adorer Dieu. Au verset 42, il est écrit ici, « Ô Seigneur, mon Dieu, ne rejette pas ton oint Souviens-toi des grâces que tu as, des preuves de grâce que tu as promises à David, ton serviteur. Verset 1. 2 Chroniques 7, verset 1. Alors quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur remplit la maison du temple. Verset 2. De sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple du Seigneur parce que la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Verset 3. Quand tous les Israélites virent le feu descendre et la gloire du Seigneur se répandre sur le temple, ils s'agenouillèrent sur le pavé de pierre, le visage incliné vers la terre, et ils se prosternèrent en louant le Seigneur, en lui apportant leur adoration pour sa bonté et pour l'éternité de sa grâce. Dieu avait répondu parce que tout avait été exécuté et fait selon sa parole et sa volonté. Dieu répondra aussi maintenant, après que tout aura été ordonné et mis en place selon sa volonté et sa parole, afin qu'il puisse s'identifier avec son peuple qui a reçu sa parole. Et c'est de cela qu'il s'agit, en fait, dans ces derniers jours. Pas d'une opération pieuse, pas d'une chose qui peut être faite ici depuis la tribune, depuis la chair. Tout ce que je peux faire ou ce que nous pouvons faire en tant que frères ici est fait par nous et cela n'aidera personne. Nous avons tous, comme le peuple d'Israël à l'époque, le droit, après avoir entendu les paroles de l'Alliance, nous avons le droit à ce que le feu de Dieu descende et que la gloire du Seigneur remplisse le temple. Et Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 17, « Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Dieu veut faire de nous un temple en tant qu'Église et en tant qu'individu. Des personnes en qui tout peut être ordonné selon sa parole. Non pas selon notre tradition, nos pensées ou ce que nous avons toujours su, mais selon sa parole. Et alors, le feu tombera. Alors il ne viendra pas de l'estrade, de la chair, mais du ciel viendra le grondement divin, le vent puissant et le feu de Dieu descendra. Nous aimerions faire partie de ceux qui, à la fin, ne sont pas déçus ni trompés, mais de ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu et qui se laisse orienter selon ses paroles, qui assiste à l'accomplissement de la promesse et qui peuvent emporter la bénédiction de Dieu de manière audible, visible, perceptible et de manière vécue personnellement. Il n'y avait pas que des paroles pieuses, il y avait une réponse réelle de Dieu. Et nous l'attendons tous. Quand pourrons-nous, dans cette unanimité de la foi, de la parole, de l'enseignement, de la consécration, être fondamentalement un en Christ? Quand pourrons-nous ainsi nous présenter devant la face de Dieu pour que descende la gloire du Seigneur? La première chose que nous devrions savoir, c'est que Dieu nous a fait grâce. Qu'en est-il de Salomon? Il aurait pu se regarder en face et son cœur aurait peut-être battu un peu plus vite. Il se serait alors dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Il y a tellement de gens là-bas qui sont bien meilleurs que moi. Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Il n'a pas laissé ses propres pensées émerger. Savez-vous ce que cet homme portait dans son cœur? La promesse que Dieu avait faite oralement à son père David, oralement. Et comme il le dit lui-même, il la portait dans son cœur. Et c'était sa force. Il avait un droit légal à cette promesse et à sa réalisation. Et il s'y est tenu. Quoi qu'il arrive, cela ne l'a pas déstabilisé. Il a suivi son chemin avec Dieu et a fait ce qui lui avait été demandé. Nous devons faire de même en ces jours, en croyant de tout cœur aux promesses faites pour ce temps, en servant le Seigneur, en lui obéissant et en nous laissant la grâce de tout ordonner selon ses paroles et sa volonté. Qu'il ne vienne à l'esprit de personne que Salomon n'y est pas parvenu, car Dieu a répondu. C'est fatigant. Toute la vie est fatigante, mais ici il s'agissait de la partie divine, de la partie spirituelle, de l'Église de Dieu. Et vous pouvez le lire dans Exode 12, c'est bien écrit. C'est là qu'Israël a été appelé pour la première fois assemblée. Exode 12, 3, jusqu'à ce moment-là, c'était seulement le peuple d'Israël. Mais à partir du moment où l'agneau de la Pâque a été immolé, c'était l'assemblée. Je dois peut-être encore vous le lire, mais je l'ai déjà lu, mais il est peut-être bon que nous gardions ces choses à l'esprit, que Dieu a établi un ordre. Exode chapitre 12 du verset 2. Exode 12 du verset 2. Le mois présent sera pour vous le mois du commencement. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Donnez à toute l'assemblée d'Israël les instructions suivantes. Avant cela, le terme assemblée ne figure pas du tout. Mais à partir du moment où Dieu était sur le point d'accomplir sa promesse, d'accomplir la rédemption et la délivrance, de faire immoler l'agneau de la Pâque et de faire sortir son peuple, il s'est adressé aux siens en tant que l'assemblée. Donc, non plus des individus, non plus chacun marchant dans sa direction, mais une assemblée à laquelle Dieu a donné des ordonnances, une assemblée à laquelle Dieu a conclu une alliance, une assemblée qui a pris ses responsabilités devant Dieu. Et le même mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur dit, « Je bâtirai mon Église. » Il a prêché le royaume de Dieu. Mais quand il s'agissait de cela, il disait, « Je veux bâtir mon Église. » Et ensuite, Dieu a placé dans l'Assemblée les ministères, et ainsi de suite. Donc, ici, nous n'avons pas affaire à une affaire privée d'un homme, mais à l'histoire du salut, à un appel donné par Dieu, à une exécution du plan de Dieu en ce temps-là. Et la même chose, j'ose le dire, se produit maintenant. Dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas affaire à mon affaire privée ou à la tienne, Mais dans le royaume de Dieu, ce que Dieu s'est proposé de faire doit s'accomplir. Et pour cela, il veut nous utiliser en tant que son Église. Il a placé la parole de l'Alliance à l'endroit où elle devait être, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et puis, une fois que tout était prêt, la gloire de Dieu est descendue. Il y avait là des chantres, il y avait là des trompettes, il y avait tout. Et tous élevaient la voix comme un seul homme. Ils rendaient au Seigneur des louanges et des actions de grâce. Et ils ont bien chanté. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'était le verset 13. Alors la maison, le temple du Seigneur, fut remplie d'une nuée. Le verset 14, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas s'approcher pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Je ne veux plus lire les Hébreux, mais il y est écrit, Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu et Christ en tant que fils dans sa propre maison et sa maison, c'est nous. C'est écrit là-bas, Hébreux 3, verset 6. Nous ne sommes pas notre maison, nous sommes sa maison, sa demeure, son temple. Nous sommes ici sur terre à sa disposition pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a décidé de faire. Ce qu'il a décidé de faire. Quelle grâce que jusqu'à cette époque, nous puissions avoir non seulement la parole comme lettre, mais aussi par la grâce de Dieu, la compréhension du plan de Dieu et l'aperçu de son conseil par grâce. Et tout cela parce qu'il a un projet pour nous. Pardon. Si Dieu n'avait rien prévu pour Salomon, nous n'aurions rien lu à son sujet. Le silence se serait fait autour de lui. Mais Dieu avait fait cette promesse. Partons. Rejetons corporel. Mais il a en effet beaucoup de rejetons corporels. Et encore une fois, Dieu a fait un choix et a dit, ce sera lui. Et croyez-moi, si Dieu avait demandé aux gens, il n'aurait justement pas choisi celui-ci, comme c'était déjà le cas pour David et partout ailleurs. Les décisions de Dieu vont à l'encontre de nos choix rationnels. Et là, tout le monde se casse la tête en disant, mon Dieu, pas comme ça, ça ne peut pas être comme ça. Et que n'a cessé de dire Samuel, l'un vient, non, dis-lui, celui-ci non, et le suivant, et celui-ci non, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la série soit terminée, n'est-ce pas? Et alors, il regarde dans l'instant et dit, oui, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Aucun d'entre eux. Et il demande, tu en as un autre? Oui, mais il est avec les moutons, laisse-le venir. Les voix de Dieu sont merveilleuses, différentes de nos voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant ses voix et ses pensées sont supérieures aux nôtres. Qui a été son conseiller? Romains 11, 34. Qui peut saisir et sonder son sens, ses pensées? Personne. Personne. Mais nous pouvons dire une chose. Que tes voix et tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Même avec nous, en ces jours, à la fin, nous verrons que Dieu a parcouru son chemin avec nous en toute humilité et qu'il atteindra le but avec nous tous et nous avec lui. Et nous avec lui. Loué soit son merveilleux et saint nom. Amen.